Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Et le rêve peut devenir une réalité. Donc, ce que je souhaite, c'est beaucoup de rêves à beaucoup de gens pour harmoniser ce monde. Ben, ils ont accepté, ils ont dit, bon, on va le laisser faire et puis il fera le sport qu'il voudra, voilà. La chance que j'ai, moi, avec mes enfants, c'est que je leur fais partager. Ils vont souvent au théâtre aussi, ils m'accompagnent dans des pays, certains. Donc, ils commencent à comprendre aussi ce que je fais, ouais. Pourquoi je le fais. Donc, j'essaye de leur transmettre juste la passion.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Khalid Tamer. Il est notamment metteur en scène également. Il a baigné dans l'art dès son plus jeune âge, un parcours taillé sur mesure et bien sûr semé par-ci par-là un petit peu d'obstacles et de difficultés. On retrace tout cela ensemble dans ce nouvel épisode de Job Story. Khalid Tamer, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir dans Job Story.
Eh bien, de même. Je trouve que c'est une superbe émission. J'ai écouté les podcasts. Je trouve que c'est très intéressant. Très intéressant, les parcours de chacun.
Merci beaucoup, Khalid. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je le fais souvent, d'ailleurs, dans Job Story avec tous mes invités, ou presque. On commence toujours par un petit récap, un retour en arrière. Comment tout a commencé pour vous sur le plan professionnel? Ramenez-nous un peu à vos premiers pas dans l'univers pro.
Alors, mon premier vraiment souvenir, c'est les années 80, fin 90, où je regardais des films comme Fame, Flashdance, en famille. Et c'est là, je crois, que le déclic a commencé pour me dire, moi, j'ai pas envie de faire comme mes frères, j'ai envie de faire de la danse, pendant que mes frères faisaient du football, faisaient du foot. Donc, qu'on plaise à mes parents, j'ai choisi de faire une école de danse.
D'accord.
Classique.
Excellent. Et ça n'a pas été difficile on va dire, de le faire accepter, entre guillemets, à votre entourage. On sait que des fois, c'est un peu compliqué, surtout quand il s'agit de carrière artistique de façon générale. Des fois, c'est un peu compliqué à faire accepter à notre entourage. Est-ce que c'était le cas pour vous? Est-ce que vous aviez juste une idée en tête, vous êtes dit, je le fais, et puis voilà, adviendra...
Oui, non, ça a été difficile parce que d'abord dans notre société, parce que moi j'ai commencé vraiment dans les années 90, ouais. Donc c'était déjà compliqué, la société est déjà compliquée parce que quelqu'un marocain qui habite en Corrèze avec des parents marocains mais qui ne voulait pas faire de la danse, donc ça a été accepté de faire la danse pendant que les autres faisaient un autre sport collectif ou autre. Non, c'était dans la société, c'était même quelquefois mal vu. Comment on disait des petites choses. Donc oui, mais en même temps, j'étais tellement convaincu que c'est ça que je voulais faire. Alors après, avec papa, maman, ils ont accepté. Ils ont dit, bon, on va le laisser faire et puis il fera le sport qu'il voudra. Voilà.
C'est une très bonne chose parce qu'au final, nos parents, ils veulent quoi? Ils veulent qu'on soit heureux. Donc même s'ils sont un peu sceptiques au début, avec le temps, ils finissent par accepter quand ils voient que nous, on va bien. Donc ça, c'est le plus important, Khalid. Et professionnellement parlant, donc on peut dire que vous avez un peu en quelque sorte baigné dans l'univers artistique, la danse, le cinéma. C'est quelque chose qui était en vous dès votre plus jeune âge. Comment vous en avez fait, un métier? Est-ce qu'il y a eu un avant-après ou est-ce que vous avez directement débuté dans l'univers artistique ou est-ce que vous avez eu d'autres expériences dans peut-être d'autres domaines?
Alors, non, bien sûr que quand on fait ces métiers-là, c'est des métiers qui sont pas toujours sûrs, précaires. Donc, bien sûr, j'ai un diplôme parce que papa, bien sûr, il voulait pas que je fasse ça tout de suite. Et j'ai fait ça par loisir, mais pour en faire un métier, c'est autre chose. Et du coup, j'ai dit à mon père, je vais faire une école hôtelière. J'ai un bac hôtelier, j'ai fait une école hôtelière à côté pour réussir, pour aller à Paris et pour commencer une école de théâtre professionnelle. C'est-à-dire qu'il fallait quand même que mon père, il m'a laissé partir une fois que j'avais déjà un diplôme en place, en poche, pardon. Et j'étais en place déjà.
Voilà, donc, en place et en poche.
J'ai déjà... Donc voilà, je pense que c'est ça qui a fait que mon père a cru un moment, il a dit ok, il a son diplôme, il part en diplôme et je rentre dans une école de théâtre professionnelle à Paris pour justement épouser mon métier en fait, faire du choix de mon métier. Mais après, je peux pas raconter toutes les anecdotes, mais ça a été très difficile. Vous savez qu'à l'époque, on était très peu, d'abord, très peu marocains en France, vraiment. Hein, on était très peu noirs, marocains, enfin, il y avait très peu d'immigrés qui arrivaient à l'époque. Il y avait Jamel qui commençait juste. Jamel, c'était même après Jamel Debbouze. C'était après moi. Mais il y avait Ismaïl. On était très, très peu. Donc, c'était les difficultés se sont enchaînées, en fait, de rentrer dans une école de théâtre et comment se battre, comment réussir dans ce métier. Mais voilà, la seule phrase que je peux dire à ceux qui m'écoutent, quand on croit en ses rêves, on y arrive toujours.
Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est un très beau message. Et c'est vrai, des fois, les gens peuvent penser que c'est un peu cliché. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment, c'est du concret. Il faut y croire. Il faut aussi se donner les moyens par la suite, justement, pour les concrétiser, ses rêves. Et puis voilà, ça se passe en fait naturellement avec, bien sûr, les difficultés qui vont avec. Parce que c'est pas tout beau, tout rose. On va pas se mentir non plus. C'est pas, j'ai un rêve, je vais l'atteindre juste comme ça. Non, c'est des difficultés, c'est des efforts, c'est beaucoup de choses, c'est des sacrifices, c'est énormément de choses.
C'est énormément de choses, c'est énormément de sacrifices. Et moi, je dirais juste une phrase qu'une professeure m'a dit une fois, enfin, une prof m'a dit, vous savez, monsieur, si vous êtes sur scène et que vous avez un décès, vous êtes en train de faire rire les gens, vous allez continuer parce que le public, il s'en fout de la personne qui est morte chez vous. Ouais. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que quand mon beau-père, il est mort, j'étais en tournée et je pouvais pas aller à l'enterrement parce qu'on était en pleine tournée. Donc, je pouvais pas laisser l'équipe sur place et dire mon beau-père, il est mort, il faut que j'aille à l'enterrement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Les mariages, les anniversaires, on loupe beaucoup. C'est un métier où ça demande beaucoup de sacrifices. Énormément de sacrifices. C'est pour ça que c'est beaucoup de travail de sacrifices.
Évidemment. Et Khalid, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un moment... vous venez de parler de déclic il y a pas longtemps. Est-ce que ce déclic est venu à l'enfance ou est-ce que c'est venu un peu plus tard quand vous avez, on va dire, un peu goûté au théâtre vous êtes en quelque sorte professionnalisé ou est-ce que c'était bien avant? Il y a eu un moment où vous vous êtes dit, c'est bon, je sais ce que je veux faire sur le plan professionnel et puis je vais y aller, je vais me donner les moyens de le faire et je vais y aller.
Non, je pense que dès le moment où j'ai commencé à 12 ans de faire la danse classique, dès ce moment-là, je me suis dit c'est ça que je veux, c'est la scène, c'est rencontrer le public, c'est la culture, c'est l'artistique en général. Donc vraiment, je peux dire j'étais vraiment convaincu. Enfin, c'était ma vocation. Enfin, j'en ai fait une vocation. Donc à partir de ce moment-là, oui, je me suis dit on y va. Je mets tous les moyens, voilà, donc ouais, c'est le choix, c'est toujours, à partir du moment où on fait le choix,
effectivement,
comment on y arrive.
Et quand il s'agit de carrière artistique, alors ça m'arrive très souvent quand je reçois soit des artistes de façon générale ou bien des entrepreneurs, j'aime bien me poser cette question, ou leur poser plutôt cette question, est-ce que vous pensez qu'on choisit nos carrières ou est-ce que c'est plutôt l'inverse ? Surtout lorsqu'il s'agit, comme je viens de le dire, de tout ce qui est un peu univers artistique, entrepreneuriat en l'occurrence pour d'autres personnes. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on choisit ou est-ce que c'est la carrière qui nous choisit en fait, de façon directe ou indirecte d'ailleurs ?
Moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a à la fois les deux parce que l'un va sans l'autre. Enfin, il y a les deux. Il faut écouter son destin. Moi, je pense que le destin. Enfin, mais en même temps, on crée notre destin. Donc, c'est l'un qui va vers l'autre. Je pense. C'est sans cesse l'un qui va vers l'autre. On peut quelquefois dire mais c'est pas pour moi et puis on arrête et puis ça revient. C'est la chose qui vient vous chercher. Donc c'est l'un sans l'autre. Moi j'en suis, voilà, c'est ma parole à moi. Voilà, c'est à cet endroit là que je parle aujourd'hui. Je me dis c'est les deux. C'est à la fois ce destin, c'est à la fois cette envie, cette force d'envie de dire j'ai envie de réussir, j'ai envie d'y aller dans ce métier.
Donc on peut dire que c'est complémentaire en quelque sorte, ça s'imbrique naturellement.
Complètement.
Et Khalid, vous avez, voilà, on va dire plusieurs casquettes dans l'univers artistique, dans l'univers théâtral. Parlez-nous, rapprochez les personnes qui nous écoutent actuellement justement de ces différentes casquettes, puisque vous avez, on va le dire comme ça, plusieurs cordes à votre arc. Comment vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, et expliquer surtout aux personnes qui nous écoutent, question de les rapprocher un peu de ce que vous faites concrètement, de votre passion, votre vocation, votre métier par conséquent.
Alors oui, c'est vrai que ça a évolué. Hein. J'ai commencé par la danse, après le théâtre et de théâtre metteur en scène. Quand je suis devenu metteur en scène, je suis devenu directeur artistique et à partir de là, tout s'est enchaîné en fait. J'ai travaillé avec la ville de Paris où j'étais directeur artistique de plusieurs événements, de la Noé à l'époque. Et de là, c'est créé vraiment un profil autour des politiques culturelles. Mm-hmm. Donc de Paris, je suis parti à Ottawa, d'Ottawa, je suis parti à d'Abidjan, je suis parti à Marrakech et je suis devenu en fait l'opérateur culturel économique. Du coup, je crée des événements. Mm-hmm. Je crée des événements pour les villes, c'est-à-dire qu'un maire, un ministre m'invite. Il me dit, voilà, moi j'ai besoin d'un événement sur ça, je ne sais pas, musical, cirque, théâtre. Donc il faut avoir une connaissance phénoménale. Il faut s'intéresser à tout parce que du coup, je me suis intéressé à l'art contemporain. Aujourd'hui, je peux dire, voilà, je suis conseiller culturel à la fois des politiques et à la fois privé aussi, parce que je travaille pour des boîtes privées. Mmh. Aujourd'hui, j'ai un théâtre à Paris, le Lavoir moderne parisien que j'ai acheté en 2014. Je viens de racheter la librairie des colonnes à Tanger, mmh, pour justement remonter cette belle
dame. Très, très bel endroit. Très bel endroit.
Voilà, de
magnifique.
75 ans, ouais, qui a fait toute l'histoire, hein, mmh, de Tanger. Donc, vous voyez, donc, on devient en même temps entrepreneur culturel. C'est-à-dire, ouais, qu'on passe de la passion à l'acteur, et de l'acteur on devient à la profession. C'est-à-dire que c'est le temps qui fait que les choses se font. C'est pour ça que votre question tout à l'heure, elle était très intéressante. Qu'est-ce qui fait ? Est-ce que c'est le destin ? Est-ce que c'est vous ? Non, c'est les deux, mm-hmm, parce qu'à un moment, ça s'éclaircit en fait. Ça s'éclaircit petit à petit dans le chemin. Donc aujourd'hui, oui, avec toute cette économie culturelle, je peux à la fois mettre des événements, d'ailleurs je prépare un événement du 19 au 22 juin, je fais pas de pub, les rencontres méditerranéennes.
Ah bon? Ah bon, on aurait dit quand même, hein. Non, allez-y, y a pas de souci.
Donc voilà. C'est d'essayer de dire que alors en fait on devient aussi entrepreneur culturel, on, ouais, devient producteur, on devient, donc c'est vrai qu'il y a tout ça, mais il reste que l'axe, c'est la culture, c'est, mm-hmm, l'artistique. L'axe principal, c'est la culture et l'artistique. Le reste, je fabrique, j'écoute, je vais dans des pays, donc je visite énormément de pays. Ça aussi, c'est une chance énorme que j'ai eue dans ma vie. C'est, mm-hmm, mais ça demande beaucoup de sacrifices, de travail. Je dis ça pour les gens qui écoutent, parce que c'est pas facile. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, je vois pratiquement mes enfants. Ma femme, je les vois pas beaucoup, parce, mm-hmm, que je voyage énormément pour les politiques culturelles en Afrique. Donc ça demande beaucoup de choses. Mais c'est une passion. Hein, c'est une passion de dire, voilà, à la fois je gagne mon argent avec ça parce que, mmh, je vis avec ça, mmh, et j'ai créé, en fait c'est créé, comme dirait une grande dame qui est décédée, une grande dame artiste qui disait, dans l'art il faut savoir créer son poste. Mmh. Je trouve ça très beau. Non, il faut savoir créer son poste. Donc j'ai créé mon propre poste en fait. Ouais. Je suis devenu conseiller culturel de plusieurs états, de plusieurs villes, voilà, et je continue à le faire.
Et ça, c'est une très bonne chose. On en a parlé un petit peu en off, justement, du fait que beaucoup de personnes ont tendance à juger la personne quand elle arrive à un certain, on va dire, niveau, entre guillemets, qu'elle a un petit peu une carrière bien tracée, qu'elle fait des choses, qu'elle gagne bien sa vie. Bon, ça dépend des domaines, mais ils ne voient pas forcément ce qui se passe derrière et ce qui s'est passé, justement, avant d'en arriver là. Donc, c'est hyper important de parler de cette notion de sacrifice, du fait que, voilà, vous n'avez pas l'occasion de voir suffisamment vos proches, votre épouse, vos enfants, etc. Et ça, c'est pas facile en fait. C'est quelque chose qu'on, voilà, qu'on subit. C'est pas, même si on fait ce qu'on aime, et c'est vrai que voilà, on est épanoui, c'est notre passion, notre vocation, etc. Mais quand même, il y a toujours un petit manque. Donc c'est important de le souligner aussi pour les personnes qui nous écoutent, qui vous voient peut-être voyager, qui disent, oh la chance, moi aussi j'aimerais bien.
Oui,
voilà,
non,
il y a l'envers du décor aussi.
Oui, il y a vraiment un vrai sacrifice. Alors après, la chance que j'ai, moi, avec mes enfants, c'est que je leur fais partager. Ils vont souvent au théâtre aussi, qui m'accompagnent dans des pays, certains. Donc, ils commencent à comprendre aussi ce que je fais, pourquoi je le fais. Donc, j'essaie de leur transmettre juste la passion, pas la passion artistique ou culturelle, je ne sais pas ce qu'ils vont faire plus tard, mais leur faire partager que la passion, ça se mérite, il y a des sacrifices et il y a un travail à faire. Et ça, je trouve que ça, c'est la chose la plus belle qu'on peut transmettre à nos enfants ou à autres, c'est leur transmettre la passion. Et ça, c'est parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure quelque chose qui était très important. C'est une prof, de quand j'étais en troisième, qui nous a menés en cachette au théâtre. Et l'école ne savait pas, et c'est elle qui m'a donné la passion de théâtre. Pardon, Madame Martine.
Excellent. Et ça, c'est une belle chose à faire en cachette. Hein.
Voilà, c'est revenu quand je parlais de passion, c'est revenu comme Madame Martine qui nous a menés au théâtre.
Mais ça c'est une très belle chose. Même si on enfreint les lois pour ça, c'est pas grave. C'est ramener les enfants au théâtre, franchement, c'est la meilleure des choses à leur inculquer. Comme ce que vous inculquez d'ailleurs à vos enfants, c'est un très bel héritage que vous laissez, le fait de montrer à la plus jeune génération que on peut vivre de sa passion, oui, ça existe, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, donc il faut être prêt mentalement, intellectuellement, et puis on peut le faire, mais voilà, il faut juste voir les deux côtés, être préparé.
Oui, il faut se préparer, Alors après, comme vous avez dit tout à l'heure, on ne sait pas dans quelle aventure on va rentrer. C'est pour ça que, quelles que soient les difficultés, il faut les surmonter et puis se dire, c'est ça que je veux faire. Moi, je continue à dire, quand on croit en soi, on y arrivera. Voilà, c'est peut-être des phrases banales, attention. Mais en même temps, c'est tellement... aujourd'hui, j'observe notre société actuelle. Je me dis, en fait, c'est comme si on ne croyait plus quelquefois en nous, alors qu'il n'y a pas mieux de croire vraiment en nous et de savoir c'est ça qu'on veut faire, quel que soit le métier.
C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Khalid, on vient de parler de sacrifice, du fait de laisser des fois votre famille, de ne pas l'avoir suffisamment. Est-ce qu'il y a eu des encouragements par rapport à ce que vous faites, ou est-ce qu'il y a des fois il y a aussi des réticences, des craintes, etc. En gros, quel a été le rôle de votre entourage par rapport à, allez, on va dire, votre choix de carrière et aussi votre orientation? Est-ce qu'il y a eu un quelconque facteur familial qui a fait que, ou est-ce que c'est que vous, en tant que Khalid, qui avez eu cette passion ou cette envie de vous lancer dans cet univers?
Dans la famille, dans ma famille, non, il n'y a que moi. Les autres, ils sont banquiers. Ils sont
il faut avoir de tout.
Ils sont ingénieurs. Ouais. Ils sont ingénieurs. Non, moi, mais dans votre question, parce qu'il y a deux séquences. La première, c'est moi, j'ai eu de la chance parce que ma famille a toujours accepté ce que je voulais faire. Alors, ça, c'est une chance énorme aussi, d'avoir la famille qui soutienne, qui dise OK, on y va, on laisse faire, tout le monde, tu fais confiance. Voilà, ça c'est le premier point. C'est vrai que l'entourage de la famille est hyper important dans ces choix-là, parce que je sais que chaque fois que je revenais à la maison, que ce soit ma mère, bon, mon père il décédait bien avant que je rentre en métier, ma mère elle m'a toujours soutenu. Et d'ailleurs après, quand elle me voyait à la télé, quand elle voyait, elle dit, ah, maintenant je comprends mieux ce que tu fais, tout ça, donc dans des interviews, dans tout ça. Donc non, j'ai eu la chance vraiment d'être accompagné, en fait, ou moi même pas être accompagné, parce que bon, on n'était pas une famille non plus, on n'avait pas les moyens non plus, mais ce qui était bien, c'est qu'elle écoutait et elle encourageait. Et ces encouragements, ça me faisait grandir, parce que je me disais, mais chaque fois, il y a maman qui est là, je peux revenir à la maison, elle écoute, elle est pas, elle me dit pas pourquoi je fais pas notre métier, parce que c'est difficile, parce qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments où on doute.
Bien sûr.
C'est pas, moi, j'ai parlé que de la façon de sacrifice, mais il y a des moments où on doute, il y a des moments où on se dit, est-ce que je peux pas faire un autre métier aussi noble qu'il soit. Chaque fois, ma famille, ils ont toujours été là, présents, écoutés et sans jugement. Et ça, je trouve ça beau et fort. Voilà.
C'est vrai, ça n'a pas de prix.
C'est
vrai que ça n'a pas de prix, le rôle de l'entourage. Et aussi, j'en parle aussi très souvent dans Job Story, parce que je pense que c'est hyper important, les personnes qu'on décide de faire rentrer dans nos vies. Ça aussi, il faut faire hyper attention, parce que des fois, ça peut être quelque chose de positif qui va nous faire avancer. Et des fois, c'est l'inverse. Donc, il faut aussi faire très attention, peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent aussi, faire attention aux personnes qu'on choisit de faire rentrer dans notre vie. Privilégier plutôt la qualité à la quantité. Ça, c'est hyper important. Ça, je me le dis même à moi-même quelques années plus tard, quelques années dans le passé. Privilégier la qualité à la quantité.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Alors je vous rejoins et parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais la prochaine fois qu'on va se voir, je vais vous raconter des anecdotes de grandes personnalités comme Philippe Noiret, comme Michel Piccoli, mais vraiment des belles histoires que j'ai rencontrées. C'est des gens que j'ai rencontrés qui m'ont raconté des histoires comme ça. Il vaut mieux la qualité que la quantité. Ouais. Et c'est pour ça que bon, on n'a pas le temps de raconter tous ces gens-là, mais pour vous dire, oui, vous avez raison à 200%, il faut vraiment d'abord s'écouter, écouter les gens qui vous entourent et qui soient convaincus avec vous, et quelquefois vous allez en perdre, bien sûr, sur le chemin, mais vous allez aussi en gagner.
Effectivement.
Et ça, oui, moi je vous rejoins sur cette question de, c'est d'abord la qualité qui prime que la quantité.
Effectivement, Khalid, cette fois, si je vous demandais c'est quoi votre rêve, votre prochain objectif, quelque chose que vous souhaitez atteindre dans le futur proche, ça serait quoi ?
Oula, c'est une grande question.
En clôture en beauté.
En clôture. Oula, je sais pas. Je rêve. Enfin, je sais pas. C'est pas un rêve parce que. Mais non. Je voudrais que tous les enfants, les jeunes, qui soient passionnés, quel que soit le métier qu'ils choisissent, et que cette passion, qui vont la chercher, qui se battent pour cette passion, parce que c'est la seule chose qui nous sauve aujourd'hui, qu'on est passionné, quel que soit encore l'intérêt, moi je ne parle pas que de l'artistique, mais d'aller au spectacle aussi, d'aller rêver, il faut rêver, voilà, il faut rêver. Je dis aux gens, il n'y a pas que ça, il y a aussi le rêve, et le rêve peut devenir une réalité. Donc, ce que je souhaite, c'est beaucoup de rêves à beaucoup de gens pour harmoniser ce monde.
Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite également. Khalid Temel, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger et de discuter. On aura peut-être l'occasion de reparler prochainement. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci beaucoup. Et n'oubliez pas le festival et rencontres méditerranéennes.
Oui, bien sûr, n'oublie pas. Allez-y, oui, bien sûr, allez, on y va. Dites-nous.
On y va. Du 22 juin, qui tout se passe au musée Ibn Battuta. Mm-hmm. Et ça va être 42 auteurs, Tahar Ben Jiloun, Rachid Ben Ziyan, Mustafa Kibirami. Il y a énormément d'auteurs qui vont venir de Liban, d'Espagne, de France. Voilà, c'est rendre hommage à cette ville qui a toujours accueilli les artistes à bras ouverts. C'était un petit peu mon péché mignon, mais j'avais envie de le dire. Voilà, je pose ces rencontres pour cette première édition.
Et ben voilà, le rendez-vous est pris, Khalid Temel. Merci beaucoup encore une fois et à très vite.
À très vite.
Merci. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.